kalaminta bamnan
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, c'est VOA Afrique, édition du jeudi 14 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Les Sénégalais élisent leurs députés dimanche et c'est aujourd'hui leur dernier jour de campagne. Dernier jour de campagne également au Gabon, à 2 jours du référendum prévu samedi. La COP29 se poursuit à Bakou, en Azerbaïdjan, avec beaucoup de désaccords. Le pays hôte veut calmer le jeu. Ici aux États-Unis, les Républicains gardent le contrôle de la Chambre des représentants après leur victoire à la Maison-Blanche et au Sénat. Et dans notre partie magazine, la 5e édition du référendum régional de la jeunesse de Corée Institute s'est tenue à Bamako, un forum sur le rôle des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, c'est ce vendredi que prend fin la campagne électorale pour les législatives de dimanche. Une campagne sous haute tension. Le premier ministre Ousmane Sonko et une partie de l'opposition menée notamment par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. La correspondance de Warani Johnson Sambou.
Même la campagne pour la présidentielle, précédée pourtant de 3 ans de violence, n'avait pas engendré autant de tensions. La course à l'Assemblée nationale sénégalaise aura marqué les esprits plus par sa violence que par la passion qu'elle a cultivée chez les Sénégalais. Tout part de l'incendie du siège d'une coalition de l'opposition, suivi d'attaques contre la caravane du parti au pouvoir et d'appels à la riposte du Premier ministre Ousmane Sonko et de sa tête de liste à Dakar. Même s'ils ont essayé de désamorcer la bombe, ces épisodes témoignent de la tension qui entoure ces législatives. Des élections cruciales pour un pouvoir en quête de consolidation de sa victoire à la présidentielle et une opposition déterminée à imposer au pouvoir une cohabitation à l'Assemblée nationale. Et c'est tout l'enjeu de cette élection anticipée pour laquelle certains analystes donnent favori le PASTEF au pouvoir. La campagne électorale s'achève ce vendredi et les coalitions jettent leur dernière force dans la bataille pour le contrôle de la majorité des 165 sièges en jeu. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Une journaliste burundaise détenue depuis plus de 7 mois en cours 12 ans de prison pour des informations qu'elle avait partagées sur un groupe privé WhatsApp a alerté Reporters sans frontières. Les accusations contre Sandra Mouhosa portent sur un message posté dans un groupe privé WhatsApp où elle s'est fait l'écho d'une information relative à une distribution d'armes par le gouvernement. Le parquet a requis mardi une peine de 12 ans de prison pour les deux chefs d'accusation, ainsi qu'une amende d'1 million de francs burundais, soit environ 320 euros, a indiqué RSF. L'organisation demande l'acquittement et la libération immédiate de Madame Mouhosa. Au Gabon, à 2 jours de référendum, environ 860 000 électeurs se préparent à se prononcer sur une nouvelle loi fondamentale. Tandis que la campagne se concentre sur un large soutien au oui, certains opposants expriment leurs inquiétudes sur certains points. Le point avec Nani Talani.
Le référendum prévu après le coup d'État d'août 2023 marque une étape importante vers le retour à un régime civil. Les partisans du oui soulignent les avantages pour l'avenir du pays, tandis que des opposants craignent l'instauration du service militaire obligatoire. La nouvelle loi fondamentale, issue d'un dialogue national en avril, consacre entre autres un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, avec un régime présidentiel fort, son premier ministre, et l'impossibilité d'une transmission dynastique du pouvoir. La nouvelle loi consacre aussi l'accession au pouvoir de la junte dirigée par le général Brice Oligui Nguema et exonère les auteurs du coup d'État de poursuite. Certaines dispositions, comme la limite de 2 mandats présidentiels successifs, le mode d'élection au suffrage universel direct ou encore le mariage entre sexes opposés, ne pourront être révisés à l'avenir. Les autorités assurent avoir pris toutes les dispositions pour garantir la plus grande transparence pendant le vote en invitant des observateurs internationaux.
La France a versé pour la première fois depuis 3 ans une aide budgétaire à la Centrafrique via un don de 10 millions d'euros de l'Agence française de développement AFD. a annoncé l'ambassade lors d'une conférence de presse mercredi à Bangui. En 2021, la France avait décidé du gel de son aide budgétaire et la suspension de sa coopération militaire avec cet État d'Afrique centrale, jugé complice d'une campagne anti-française téléguidée par Moscou. En avril, le président Emmanuel Macron avait reçu son homologue Faustin Archange Touadéra à Paris. Et les deux dirigeants avaient adopté une feuille de route en vue de mettre en place un partenariat constructif et relancer leurs relations. Un tribunal ougandais a condamné un jeune homme de 21 ans pour avoir appelé à la flagellation publique du président Yoweri Museveni dans une vidéo postée sur la plateforme TikTok, a-t-on appris jeudi auprès du procureur. Le jeune homme, Emmanuel Nabugodi, avait diffusé une vidéo représentant un simulacre de procès de Museveni. Il est poursuivi pour propagation de discours de haine contre le chef de l'État. La police sud-africaine et des ambulances ont été déployées jeudi sur le site d'une ancienne mine d'or où plusieurs milliers de mineurs clandestins sont sous terre. 5 de ces hommes ont été sortis mercredi de la mine de Stilfontein à quelques 140 km au sud-ouest de Johannesburg et la police a exhorté d'autres mineurs à remonter à la surface. Ils risquent l'arrestation s'ils décident de sortir. Plus de 800 mineurs clandestins ont été arrêtés au début du mois en sortant de ce puits dans le cadre de vastes opérations de police. Le festival Amani à Goma, qui rassemble dans l'est de la RDC depuis une dizaine d'années stars internationales et figures de la scène musicale congolaise, a été annulé pour des raisons d'ordre sécuritaire. C'est ce qu'ont indiqué jeudi les organisateurs. Ils ont déploré une décision regrettable et prise sans préavis. Plusieurs délégations diplomatiques et artistes étrangers étaient déjà arrivés à Goma, capitale du Nord Kivu, ville quasi encerclée par la rébellion du M23.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le Parti républicain a conservé sa majorité à la Chambre des représentants à l'issue des élections législatives. Une victoire qui va assurer à Donald Trump une maîtrise confortable des leviers du pouvoir pour son retour à Washington. Jacques Aristide.
Le président élu et le camp conservateur réussissent ainsi un tiercé gagnant avec la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès qui confortent le retentissant comeback politique de Donald Trump. Selon plusieurs médias américains, les républicains ont obtenu au moins 218 sièges, soit les 435 en jeu, et gardent leur majorité à la Chambre des représentants après avoir déjà arraché le Sénat aux démocrates lors des élections la semaine dernière. Ce fut une victoire décisive à travers la nation. Les gens veulent nous voir mettre en œuvre et appliquer notre programme « L'Amérique d'abord », a salué le représentant républicain Mike Johnson, qui doit continuer à présider la Chambre. Côté Sénat, les républicains ont élu John Thune comme chef. L'élu du Dakota du Sud s'est dit hier extrêmement honoré de sa victoire. L'équipe républicaine est unie derrière le programme du président Trump, a-t-il ajouté. L'élection de John Thune signe la fin de l'ère du ténor républicain Mitch McConnell, qui entretenait des relations qualifiées de tendues avec Donald Trump. Le fait de contrôler le Congrès va faciliter la tâche du 45e et futur 47e président des États-Unis. Donald Trump a déclaré vouloir tenir à ses promesses de campagne, liées notamment à la lutte contre la criminalité, contre l'immigration illégale, à la baisse des impôts et aux dérégulations.
Des milliers de personnes ont rempli le stade de Bakou aujourd'hui, alors que les délégations tiennent des discussions difficiles sur le financement des efforts de lutte contre le changement climatique. Alexandrine Hollognon suit cette actualité.
L'argent est au cœur de la COP29. Un groupe d'économistes mandatés par les Nations Unies estime que les pays en développement ont besoin de 2 400 milliards de dollars par an pour financer la lutte contre le changement climatique d'ici à 2030, dont 1 400 milliards devront provenir des pays en développement eux-mêmes. Dans un rapport publié jeudi, ces experts indiquent que les deux tiers de cet argent sont nécessaires pour assurer la transition des économies en développement des combustibles fossiles vers des formes d'énergie plus propres. Le reste devrait être réparti entre les mesures d'adaptation au changement climatique, les fonds de redressement en cas de catastrophe et la conservation de la nature. Des écologistes ont manifesté ce matin à Bakou pour exiger que les pays développés plus gros pollueurs, fournissent davantage de fonds pour lutter contre le changement climatique.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
À peine sortie d'un programme triennal de 1,5 milliard de dollars avec le FMI, la RDC espère désormais rempiler avec un nouveau programme piloté par l'institution de Bretton Woods. Selon l'agence Ecofin, la République démocratique du Congo pourrait bénéficier de 2,87 milliards du Fonds monétaire international dans le cadre d'un nouveau programme triennal soutenu par la Facilité élargie de crédit et la Facilité pour la résilience et la durabilité. Au Gabon, l'opérateur minier français Eramet reprend ses activités d'exploitation de sa mine de Moanda, l'un des principaux sites de production de manganèse au monde. Selon le site Ecomatin.net, après plus de 3 semaines de suspension, la compagnie minière de Logoué, filiale du géant français, a annoncé le 11 novembre dernier que la reprise de sa production de manganèse est prévue pour ce 14 novembre 2024. Le gouvernement nigérian a obtenu un prêt de 134 millions de dollars de la Banque africaine de développement afin de redynamiser le secteur agricole. Alors que l'insécurité alimentaire est particulièrement préoccupante dans ce pays, le plus peuplé d'Afrique, ce prêt, destiné à augmenter la production de semences et de céréales dans le pays, doit permettre de garantir la sécurité alimentaire nationale, a déclaré le ministère de l'Agriculture dans un communiqué jeudi.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Suite ce jeudi des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, 0-0 entre la Guinée équatoriale et l'Algérie, toutes deux qualifiées pour la phase finale. Les Fenech conservent leur première place avec 13 points et le Nsalang national reste deuxième avec 8 points. Le Togo et le Libéria sont donc éliminés. 1-0 pour le Lesotho face à la République centrafricaine, défaite 3-2 du Congo devant le Soudan du Sud, un résultat qui scelle le sort du groupe K en qualifiant indirectement l'Ouganda et l'Afrique du Sud pour Maroc 2025. Toujours ce soir, le Burkina Faso accueille le Sénégal au stade du 26 mars de Bamako. Les deux sont déjà qualifiés pour la phase finale. Seul enjeu donc, la première place occupée par les étalons devant les Lions de la Teranga. Au goal à virage.
Et puis le président de la Fédération sud-africaine de football a été arrêté pour fraude.
Danny Jordan a été arrêté pour des allégations de fraude et de vol d'un montant de 1,3 million de rand, soit environ 68 000 euros selon le communiqué de la police. Le président de la Fédération sud-africaine de football est accusé d'avoir engagé une société de sécurité privée pour sa propre protection et une entreprise de relations publiques sans l'autorisation du conseil d'administration de la Fédération. Danny Jordan aurait engagé cette dernière après des accusations en 2017 d'agression sexuelle de la part d'une chanteuse sud-africaine. Par ailleurs, ancienne députée, il a nié ces accusations qui remontaient à 25 ans auparavant. Le directeur financier de la Fédération sud-africaine de football, Gronny Luyo, et l'homme d'affaires Trevor Netling, directeur de la société de communication en cause, ont aussi été arrêtés, mais ont nié les accusations. Tous les trois ont été libérés sous caution par le tribunal.
Ici en NBA, Victor Wembanyama franchit le cap des 50 points en un match.
Le Français de 20 ans, choix numéro 1 de la draft de l'année dernière, dont le précédent record était de 40 points en un match, a franchi pour la première fois les 50 points en NBA en seulement 26 minutes lors de la victoire de son équipe des San Antonio Spurs, 139-130 face aux Washington Wizards. Gianni Antetokounmpo a, lui, marqué 59 points lors de la victoire des Milwaukee Bucks sur les Detroit Pistons 127-120 en prolongation. Triple-double consécutif pour LeBron James. King James, qui fêtera le 30 décembre ses 40 ans, a marqué 35 points, pris 12 rebonds et offert 14 passes décisives pour contribuer à la victoire des Lakers 128-123 face à Memphis. De leur côté, les Cleveland Cavaliers invaincus ont remporté leur 13e victoire consécutive en s'imposant 114-106 face aux Philadelphia Sixers. Le pivot camerounais Joel Embiid, qui a fait sa première apparition de la saison mardi, après 9 matchs d'absence en raison d'un problème au genou, est resté sur le banc. Les Boston Celtics ont poursuivi leur bon début de saison en gagnant 139-114 face aux Brooklyn Nets.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero dans vos deux retours pour les dossiers du jour. Le forum de haut niveau sur le pastoralisme tenu à Nouakchott du 6 au 8 novembre a dressé le bilan des réussites et des obstacles pour garantir un avenir durable au pastoralisme dans cette région d'Afrique, rapporte notre correspondant Mohamed Diop.
10 ans après la déclaration de Nouakchott, le CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, dresse le bilan du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, soutenu par la Banque mondiale et son directeur régional, Shakib Jenner.
Nous avons vu la création de plus de 560 puits et points d'eau, l'établissement de 360 marchés pour le bétail, le développement de 4200 km de corridors pour le déplacement des troupeaux, la vaccination de 600 millions d'animaux et la gestion durable de plus de 11 millions d'hectares en zone pastorale.
Ce bilan est appuyé par Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du CILS.
En termes économiques également, plus de 300 marchés de bétail ont été construits grâce à l'intervention des projets. Cela est important parce que ça facilite les transactions commerciales. Ça facilite également la collecte de la fiscalité locale pour les collectivités territoriales parce que la dimension économique va au-delà seulement de l'amélioration des revenus des producteurs, mais c'est pour toute l'économie locale et régionale.
Cependant, les défis persistent, notamment en matière de mobilité pastorale. Les jeunes ambassadeurs du pastoralisme, représentés par Yudé Issa Démon du Bénin, alertent sur ce problème.
Certains pays, aujourd'hui, se referment et cela renforce encore une certaine division, alors que le pastoralisme a pour mode stratégique pour pouvoir utiliser les ressources, la mobilité. Et cette mobilité est aujourd'hui confrontée à un problème.
Les participants recommandent aussi d'améliorer la gouvernance foncière pour apaiser les tensions entre éleveurs et agriculteurs, comme le souligne Aliou Dembakebe, directeur du programme Afrique de l'Ouest de Peace Nexus.
L'agro-business est en train d'occuper les espaces où les éleveurs passaient traditionnellement. Et c'est ce qui amène les heurts. Et l'autre chose aussi, c'est les ressources, c'est l'eau, principalement aussi, qui constitue un problème. Donc de plus en plus, ce sont ces questions principalement qu'il faut attaquer avant d'attendre les conséquences qui sont justement les heurts, les conflits et de plus en plus qui sont en train de prendre de l'ampleur.
Enfin, le secrétaire exécutif du CILS appelle à investir massivement dans la production fourragère pour garantir une alimentation animale stable et réduire la dépendance à la pluviométrie. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
La 5e édition du Forum régional de la jeunesse de Gorée Institute s'est tenue à Bamako, à l'école de maintien de la paix, à Lune Blondine Bay, avec pour thème « Rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel ». Un forum qui a aussi planché sur le rôle des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Reportage de Mohamed Danyoko.
Ils sont une cinquantaine de jeunes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire à partager leur expérience et à s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres lors de cette 5e édition du Forum régional des jeunes organisé par Gorée Institute.
Une occasion de partager ce que nous faisons dans nos pays respectifs, de partager les expériences, de nous donner des idées afin que nous continuions à améliorer nos activités associatives, nos activités dans les partis politiques et pour solutionner les crises multiformes qui sévissent dans nos pays.
Fer de lance des changements de régime intervenus ces dernières années au Sahel, il s'agit pour les jeunes, passé le moment de la contestation, de revendiquer une implication plus active dans le processus décisionnel des différentes autorités de transition.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir aller au-delà de la contestation. Nous avions eu à contester un temps, nous avons abouti à un changement. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que cette jeunesse peut être mobilisée pour qu'elle puisse également contribuer de manière active à ce changement pour qu'elle puisse se retrouver dans l'architecture qui est en train de se faire.
Pour Mokhtar Sy, panéliste et coordinateur de Génération Engagée, l'implication des jeunes au-delà d'une demande est une nécessité pour les autorités de transition.
Donc aujourd'hui, ce cadre sert à créer un échange entre les jeunes gouvernés et les gouvernants pour discuter des défis, des opportunités et définir les priorités. Maintenant, ce cadre sert à définir ces priorités-là pour les jeunes de ces trois pays qui sont confrontés à d'énormes difficultés.
Il s'agit aussi pour Gorée Institute, organisateur de ce forum, d'entretenir les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel.
Il y a beaucoup d'aspects qui doivent être pris en compte pour un peu augmenter l'implication des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Non seulement ils sont auteurs, je l'ai dit tantôt, ils sont aussi victimes. Maintenant, il va falloir maintenant que les États mettent en place des politiques qui permettent de prendre en charge maintenant la question de la jeunesse. Il ne suffit pas d'avoir des troupes militaires pour lutter contre l'extrémisme violent. Les questions liées au développement, les questions liées à l'employabilité des jeunes, les questions liées un peu à la pauvreté sont des questions primordiales pour prendre en compte ces aspects-là.
Des recommandations fortes seront issues de ce forum afin d'inviter les autorités des pays du Sahel à faire de l'implication des jeunes une priorité. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, la hausse des prix a contraint la population à trouver de nouvelles méthodes pour se vêtir. Les achats d'occasion, appelés localement okrika, connaissent un essor, offrant des options abordables. Gibson Emeka d'Abuja examine comment ce marché devient un recours pour de nombreux Nigérians. Le récit est de Thierry Kaoré.
Pendant des années, Agata Okwari, une femme d'affaires de 30 ans à Abuja, faisait ses achats dans des boutiques haut de gamme. Avec le prix des vêtements neufs qui ont presque doublé, elle s'est tournée vers les magasins de seconde main, car les vêtements d'occasion lui permettent de garder son style sans beaucoup dépenser.
Je suis passée de l'achat de vêtements neufs à l'achat d'occasion parce que, d'une part, en plus du coût, les vêtements d'occasion sont plus durables. Et j'ai découvert qu'ils sont plus résistants. Les vêtements neufs sont vraiment chers, bien plus que les vêtements d'occasion. C'est pour ça que j'ai changé.
Elle n'est pas la seule. Autrefois réservée aux personnes à faible revenu, la friperie est devenue populaire. Connue localement sous le nom d'Okrika, les marchés de friperie sont en plein essor de Lagos à Abuja. L'économiste Isaac Boti souligne que pour beaucoup, les magasins d'occasion sont la réponse à l'inflation et aux politiques qui les obligent à compter chaque dollar.
Ils font tout cela comme moyen de survie parce que le gouvernement ne les aide pas. La situation économique ne les aide pas. Les politiques du gouvernement ne sont pas favorables aux consommateurs. Donc c'est à la fois un moyen d'accès abordable pour le consommateur et un moyen d'augmenter les ventes pour les vendeurs.
Andrew Eze, 32 ans, a vu venir ce changement de mode. Lorsque les prix des vêtements neufs ont grimpé, il s'est tourné vers la vente de vêtements d'occasion sur le célèbre marché Okrika de Nyanya à Abuja.
À un moment donné, les prix des vêtements neufs sont devenus si élevés que beaucoup ne pouvaient plus se les permettre.
Des études montrent que le Nigeria importe chaque année plus de 500 000 tonnes de vêtements d'occasion. Mais même cette alternative ressent la pression, car la hausse des coûts d'importation pousse certains vendeurs de friperies à augmenter leurs prix. Pour Chris Olofou, cela signifie faire des compromis sur la qualité et le style pour contrôler son budget.
À l'époque où l'économie allait bien, on achetait dans des boutiques haut de gamme parce qu'on vivait un style de vie ostentatoire. Mais à cause des difficultés économiques actuelles, je dois maintenant adapter mes choix à mes moyens. Si la situation économique s'améliore, je devrais arrêter et revenir à mon style de mode habituel.
Les experts estiment que le shopping d'occasion restera populaire tant que les pressions économiques vont persister. Cette tendance affecte l'industrie textile locale du Nigeria en raison de la concurrence avec les vêtements importés à moindre coût.
Donald Trump n'aménagera peut-être pas à la Maison-Blanche avant janvier, mais il prépare déjà le terrain et élabore des plans pour la politique intérieure des quatre prochaines années. Caroline Presutti, correspondante de la VOA à Washington, fait le point. Récit d'Ilidico.
Le discours de victoire de Donald Trump lors de la soirée électorale.
Nous allons tout réparer dans notre pays et nous sommes entrés dans l'histoire pour une raison ce soir. Et cette raison sera justement celle-là.
La principale priorité du président élu Donald Trump est de régler la question de l'immigration.
Nous allons devoir fermer ces frontières et ne pas laisser les gens entrer dans notre pays. Nous voulons que les gens reviennent. Mais nous devons les laisser revenir, mais ils doivent entrer légalement.
Trump a conquis les foules lors de sa campagne électorale en promettant des expulsions massives visant des millions d'immigrés sans papiers chaque année. Selon les experts, cela coûterait des milliards de dollars et nécessiterait une organisation et des délégations énormes dont aucun détail n'a encore été fourni. Mais le tsar des frontières, choisi par M. Trump, Tom Homan, a déclaré à l'émission 60 Minutes qu'il se concentrerait sur les lieux de travail et non sur les quartiers. La deuxième priorité est de résoudre le problème de l'inflation. Écoutons le vice-président élu J.D. Vance le soir de l'élection.
Après le plus grand retour politique de l'histoire américaine, nous allons mener le plus grand retour économique de l'histoire américaine sous la direction de Donald Trump.
Trump promet une politique de l'Amérique d'abord, avec des droits de douane sur les produits étrangers et aucune taxe sur les prestations de sécurité sociale ou les pourboires. Troisième priorité, réparer le gouvernement.
L'Amérique nous a confié un mandat puissant et sans précédent.
Dans le cadre de ce mandat, il a nommé Elon Musk propriétaire de Tesla et de SpaceX et Vivek Ramaswamy, ancien rival à la présidentielle, à la tête du prochain département de l'efficacité gouvernementale chargé d'examiner la bureaucratie et les dépenses. Le fait que le Sénat et la Chambre des représentants soient contrôlés par les Républicains garantira une confirmation en douceur des personnes déjà pressenties pour occuper les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, à la Sécurité intérieure, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement, ambassadeur auprès des Nations unies, d'Israël et bien d'autres encore. Ce ne sont là que quelques-uns des 4000 postes gouvernementaux à pourvoir dans la nouvelle administration Trump. Dans moins de 70 jours, le président élu prendra ses fonctions et nous aurons une meilleure idée de son second gouvernement. Mais une chose est sûre, cette présidence sera radicalement différente des années Biden.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur deux États africains cités en exemple, le Botswana et Maurice. Dans un continent souvent perçu comme en proie aux turbulences politiques, ces deux pays viennent de démontrer au monde que des transitions démocratiques apaisées sont possibles après des élections pacifiques. Les deux nations sont-elles des modèles à suivre, non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres régions de la planète? Toutefois, au-delà des louanges, que révèle vraiment l'issue du scrutin tant à l'île Maurice qu'au Botswana? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h15.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro, Rosine Munezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité sur 24 heures sur 24. Tout à l'heure, à votre avis, avec John Lyndon. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.